Chapitre 9. Des entretiens sur Zit que Gaston avait eus avec Bachelet et la pharmacienne, il lui était resté deux mots dans l'esprit qui, par cela seul qu'il se répétait, étaient significatifs. Le jour où elle paraîtra sur un théâtre digne d'elle, on verra quel chemin elle fera. Cela paraissait certain, mais de cette certitude résultait-il que lui, Gaston, dût s'employer à faire cet engagement par un directeur parisien, ou, tout au contraire, le plus sage pour lui n'était-il pas de la laisser à Noisy ? À Paris, il chercherait évidemment à se rapprocher d'elle. L'impression qu'elle avait produite sur lui était assez forte, il le sentait, pour n'avoir pas de doute à ce sujet. À Noisy, au contraire, il ne consentirait jamais à monter les marches de la roulotte, au haut desquelles elle lui était apparue si charmante, dans le nimbe d'or dont le soleil entourait son pur profil. La chose valait la peine d'être examinée et pesée. Il verrait, il réfléchirait. Ce n'était point son habitude de se jeter tête basse dans une aventure. Quand il faisait une bêtise, ce n'était jamais à l'improviste. Les situations traînées lui plaisaient d'autant plus que bien souvent le hasard se chargeait de les trancher pour lui. Ce fut précisément ce qui arriva. Il était rentré à Paris depuis quelques jours et il avait tranquillement repris le train-train monotone de sa vie ordinaire lorsqu'un soir, une occasion de parler de Zit se présenta qu'il n'aurait pas assurément cherché mais qu'il ne laissa point passer alors qu'elle naissait spontanément, en quelque sorte providentiellement. C'était à son cercle où il s'était rencontré avec Ernest Farré, l'auteur dramatique, dont on répétait en ce moment un grand drame historique en vers, Ella, écrit pour le Théâtre français, où Farré avait obtenu, avec une comédie moderne, un succès retentissant. La pièce, après des aventures auxquelles les journaux avaient fait une célébrité, était passée à l'Odéon. Bien qu'il n'y eût pas, entre Farré et Gaston, de relations intimes, ils se connaissaient assez, cependant, pour échanger quelques paroles quand l'occasion s'en présentait, et les répétitions avaient justement fourni cette occasion à Gaston. Les répétitions marchaient-elles bien ? La distribution était-elle bonne ? À cela, Farré avait répondu qu'il n'était pas plus satisfait des répétitions que de la distribution. Son drame, qui se passait en Grèce au temps de la guerre de l'indépendance, était mené par une jeune fille, une sorte d'illuminée, moitié paysanne, moitié artiste, une Jeanne d'Arc, et il n'avait pas du tout la femme de ce rôle, bizarre, fantaisiste, poétique. Celle qu'on lui avait donnée pour le remplir conduisait sa pièce à un échec, ce qui était désagréable, et au ridicule, ce qui était plus grave. Aussi cherchait-il à la remplacer, mais sans trouver, non que le rôle fût difficile, il porterait une élève, seulement il fallait une nature, et cette nature, il ne la rencontrait ni dans les théâtres de Paris, ni dans ceux de la banlieue, ni même dans ceux de la province. « Avez-vous été à Noisy ?» demanda Gaston presque inconsciemment. « Où prenez-vous ça, Noisy ?»« Et le théâtre du Châtelier, vous ne le connaissez pas davantage, je suppose ?»« Qu'est-ce que c'est que le théâtre du Châtelier ?»« C'est un théâtre de comédiens ambulants qui donne des représentations dans les villages des environs de Paris. » À ce moment, Bachelet traversait le salon, Gaston l'appela. « Voulez-vous dire à M. Farré ce que vous pensez de la comédienne que nous avons vue à Noisy ? 18 ans, de la beauté, de la grâce, des yeux admirables, une voix chaude qui est une musique. Tant que ça, et plus encore, car je n'ai rien dit de la séduction qui se dégage d'elle et qui tient à des qualités que j'aurais du mal à définir, parce que ce n'est pas mon métier d'analyser et d'expliquer, mais qui est réelle et qui vous prend si bien que vous voyez comme j'en parle. Mais c'est de l'enthousiasme. Au moins, est-ce de l'étonnement. Sur une scène ordinaire, nous n'aurions sans doute pas été frappés comme nous l'avons été sur ces tréteaux. Je disais à M. Farré, continua Gaston, qu'il trouverait peut-être dans Zit la femme qu'il lui faut pour un des rôles de sa pièce nouvelle. Il veut une nature bizarre, fantaisiste, poétique. Il me semble que Zit répond jusqu'à un certain point à ses exigences. Mais ses exigences ne sont pas les seules, dit Farré avec un sourire un peu railleur. Il ne me faut pas seulement une femme, il me faut en même temps une comédienne. C'est que, justement, cette fille est une comédienne à laquelle il n'a manqué jusqu'à présent qu'un vrai théâtre. Le jour où un directeur intelligent la verra, il l'engagera. Et elle fera la fortune de ce directeur, conclut Bachelet, du ton affirmatif qu'il prenait pour parler des choses où sa haute compétence était reconnue. Faré réfléchit un moment. « Savez-vous que vous me donnez presque envie de la voir ? Alors, permettez-moi de vous en offrir l'occasion, » dit Gaston, avec plus de vivacité qu'il n'en mettait d'ordinaire dans ses paroles. « Bien que Noisy ne soit qu'à 4 lieues de Paris, on n'y va pas aussi vite ni aussi facilement qu'à Rouen, et on n'y trouve pas d'hôtel. Heureusement, notre château n'est qu'à une courte distance, et j'espère que vous voudrez bien me faire l'amitié d'y accepter l'hospitalité. » Nous y dînerons avant le spectacle et après nous y rentrerons coucher. » Faré voulut refuser, mais Bachelet se joignit à Gaston en disant qu'il serait de la partie si ce soir-là il ne gelait pas, et il fallut bien qu'à la fin l'invitation fût acceptée. Gaston allait télégraphier pour savoir quand aurait lieu la prochaine représentation et il partirait. La réponse ne se fit pas attendre. Le Grand Théâtre du Châtelier donnait en ce moment des représentations à Villiers, mais il reviendrait le jeudi pour jouer l'Histoire d'un sou, Les Enfants d'Édouard et passer minuit. Si Gaston et Bachelet avaient parlé de Zite avec enthousiasme, ils n'avaient pas donné au Théâtre du Châtelier plus d'importance qu'ils n'en avaient. Cependant, quand Faré, après avoir suivi la grande rue de Noisy, arriva devant l'entrée de la salle de bal, et devant les deux roulottes échouées dans les bas-côtés de l'avenue, entourées de vieilles pailles, d'ustensiles de ménage et de linges étendus sur les ficelles, il se dit qu'il pouvait bien avoir fait un voyage inutile. Qu'attendre de bon de ceux qui vivaient là-dedans? Mais, où il se le dit encore avec plus de certitude, ce fut lorsqu'après le dîner au château, ils entrèrent au théâtre au moment où le rideau se levait sur le premier acte des Enfants d'Édouard. Gaston avait fait retenir 3 places et on les leur avait réservées au premier rang. Des places louées. Duchâtelier en avait cassé une de ses bretelles en bombant sa poitrine. C'était la première fois que cela se produisait, mais à coup sûr, ce n'était pas la dernière. Quand Faré vit Madame Duchâtelier, la reine Élisabeth, couper chaque hémistiche par son geste de guignol, Marietta, le duc d'York, affublé d'un costume de page, mi-partie rouge, mi-partie jaune comme les roulottes, Stanislas en vieille femme de chambre, malgré ses 20 ans et la moustache naissante qu'il n'avait pas voulu couper, il se demanda si Gaston et Bachelet ne s'étaient pas moqués de lui. « C'est la mère de notre jeune fille qui joue la reine, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, mais rassurez-vous, la fille ne ressemble pas à la mère. » « Et au père ?» demanda Faré avec inquiétude quand Duchâtelier, qui tenait le rôle de Gloucester, eut achevé sa scène avec la reine. À voir la pauvre madame Duchâtelier, il était facile de deviner qu'elle n'avait jamais pu exercer la moindre influence sur sa fille, si ce n'est pour empêcher celle-ci de l'imiter. Mais en était-il de même pour Duchâtelier ? La mère jouait aussi peu que possible, le père, au contraire, jouait beaucoup trop, et avec cette exagération romantique et mélodramatique, ses grands bras, ses flexions de jambes, ses frémissements du mollet, ses roulements d'yeux, ses éclats de voix qui allaient du chant du coq au sourd gémissement du trombone, mis un moment à la mode par les rivaux de Bocage et de La Ferrière. S'il avait formé sa fille à cette manière, qu'attendre d'elle ? Comme le roi Édouard que devait représenter Zite ne paraît qu'au milieu du deuxième acte, Faré eut à avaler tout le premier, qui est très long, en se demandant comment il avait eu la simplicité d'écouter ces deux mondains qui ne se connaissaient rien au théâtre et de se laisser amener par eux dans ce village. Il fallait vraiment qu'il fût affolé par l'exaspération de voir massacrer et travestir ce rôle qu'il avait si amoureusement caressé en l'écrivant. Cependant, il ne dit rien et, restant impassible sur sa chaise, il écouta avec le stoïcisme d'un juge au tribunal. « Vous les trouvez bien mauvais, n'est-ce pas ?» demanda Gaston. « Mais oui, assez. Vous verrez vite. » Enfin, elle parut. « Mon oncle, dans mes bras !» Gaston et Bachelet, au lieu de la regarder, s'étaient tournés vers Faré pour voir l'impression qu'elle produirait sur lui. « Le visage est intelligent, » dit-il en répondant à leur muette interrogation. « Le geste expressif, la voix est timbrée, l'attitude pleine de grâce naturelle. Ce n'était plus le même homme. À l'ennui et à la lassitude avaient instantanément succédé l'intérêt et l'émotion. « Mais elle articule, » murmura-t-il. « Elle sait prononcer, elle dit les vers. » Et quand la scène avec Gloucester se déroula, « Elle a composé son personnage, » dit-il. Quand cette scène s'acheva dans le sommeil d'Édouard, il applaudit et Gaston, ainsi que Bachelet, applaudirent avec lui. Ce fut la chapelle, cependant, qui expliqua à Faré une question que son expérience des choses du théâtre lui faisait se poser depuis que Zit était entrée en scène. Comment cette jeune fille avait-elle pu se former au milieu de ces comédiens vraiment dignes de leur tréteau? Il n'y avait pas que des dons naturels en elle, si grands qu'ils fussent, il y avait du métier. Où l'avait-elle appris? Ce n'était pas sa mère, la pauvre femme, qui lui avait enseigné ce qu'elle ne savait pas elle-même. Et ce n'était pas son père, par bonheur, qui lui avait enseigné ce qu'il ne savait que trop. La grâce, la beauté, le charme, le regard, la voix, l'instinct de l'élégance, c'est la nature qui les donne. Mais l'art de dire le vers, avec son ampleur et son harmonie, la composition d'un personnage, la gradation des effets sans rien exagérer, la retenue pas plus que l'éclat, la sensibilité contenue, l'élan voulu, la science des attitudes, c'est par le travail qu'on les acquiert. Comment et avec qui avait-elle travaillé? Avec ce bonhomme, évidemment, qui jouait Tirel le bourreau, en mouton, effacé comme s'il n'avait plus de vie, sans gestes, sans voix, timide comme un enfant, hésitant comme un vieillard paralysé, mais qui laissait comprendre cependant qu'il savait ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Ce n'était pas la première fois qu'un comédien détestable aurait été un bon professeur. Bien que les quelques paroles de Faré fussent significatives, Gaston aurait voulu plus encore. Que décidait-il? Trouvait-il Zit capable de jouer le rôle de sa pièce nouvelle? Il n'osa pas le demander cependant, malgré l'envie qu'il en avait, et il dut se contenter des signes d'approbation par lesquels, de temps en temps, Faré manifestait son sentiment. Un visage intelligent, un geste expressif, une voix timbrée, savoir prononcer, était-ce suffisant pour la faire venir à Paris? Ce fut seulement quand le rideau baissa après le troisième acte que Faré se prononça catégoriquement. « Maintenant, il faudrait s'entendre avec le père. »« Vous la prenez donc ?» demanda Gaston avec un élan qui le surprit lui-même. « Sans doute, l'aventure est grosse, mais au théâtre, tout est aventure et il faut savoir se risquer. » Comme passé minuit était joué par Théodore et par Joseph, Duchâtelier devait être libre en ce moment. Mais où le trouver? Faré crut que le mieux était d'envoyer un gamin du pays porter sa carte à Duchâtelier avec un mot pour lui demander un moment d'entretien. Quand le messager arriva sur le théâtre, en enjambant tout simplement la rampe et en écartant le rideau, il trouva Duchâtelier occupé avec les autres hommes de la troupe à changer le décor. « Monsieur Duchâtelier, v'là un mot qu'un monsieur m'a remis pour vous. »« Monsieur Chamontin ?» Non, son ami. On allait donc savoir quel était cet ami qui avait si fort intrigué toute la troupe. Avant que Duchâtelier eût pris la carte que le gamin lui tendait, Marietta avait jeté les yeux dessus. Ernest Faré. L'auteur dramatique. L'auteur de Châtelard, de Flavie. Où le recevoir? Demanda Duchâtelier. La table est restée servie dans la roulotte, répondit Madame Duchâtelier avec effroi. Duchâtelier eut une inspiration. « Dis à ce monsieur qu'il entre chez Marinier et que je le rejoins tout de suite. » Conduit par le gamin, Faré, avec Gaston et Bachelet, s'installèrent dans une petite salle du marchand de vin où, après quelques instants d'attente, Duchâtelier vint les rejoindre. Il n'avait pas changé de costume, mais par-dessus la bosse de Gloucester, il avait jeté le carrick gris à petits collets de Chopin et il s'était coiffé de son chapeau à haute forme, qui, pour lui, était l'insigne du commandement, comme l'est la casquette blanche pour le chef de garde de service. Il les salua d'un large salut circulaire à la Frédéric Lemaître, qui les enveloppa tous les trois, puis s'adressant à Faré, « Monsieur Ernest Faré, je suppose ?»« Précisément, » répondit Faré en lui tendant la main. Duchâtelier la serra en camarade et s'assit à califourchon sur un tabouret en face de Faré. vous m'avez fait l'honneur de me demander un moment d'entretien. Débarrassé des soucis de la scène, me voici tout à vous, monsieur, heureux de faire la connaissance d'un écrivain dont les glorieux succès ont brillé jusque sur notre modeste sphère. » Si les paroles étaient nobles, le geste et l'accent qui les soulignaient l'étaient plus encore. Du Châtelier tenait à laisser comprendre que si la cabale, l'adversité et les coups d'un sort injuste l'avaient fait échouer à Noisy, il n'était pas ce que les apparences donnaient à supposer. « Que pouvons-nous vous offrir ?» demanda Gaston. « Je prendrai un grog volontiers, ce rôle de Gloucester est dur. » Pendant qu'on préparait le grog, Faré commença l'entretien. « Mon ami, M. Chamontin, m'a parlé de votre théâtre dans des termes tels qu'il m'a donné l'envie de venir vous voir. »« Bien modeste théâtre, » répondit Du Châtelier en remerciant Gaston de la main. « Mais enfin, je fais de mon mieux, avec de petits moyens, malheureusement, et un entourage bien faible qui compromet la perfection, je l'avoue. »« Je dois vous dire, » continua Faré, « qu'on répète en ce moment un drame de moi à l'Odéon, dont le rôle principal n'est pas tenu, et... » Du Châtelier ne le laissa pas continuer, il avait compris. Lorsqu'un écrivain, dit-il, fait à un comédien l'honneur de le choisir entre tous et de lui demander son concours, c'est un devoir pour celui-ci de l'accorder sans se faire prier. Bien que Faré eût vu plus d'un comédien toujours prêt à mettre sa personnalité en avant, il resta un moment interloqué. « Le rôle dont je parle, dit-il, n'est pas un rôle d'homme, c'est un rôle de femme. De rôle d'homme, je n'en ai pas, par malheur, qui soit digne de votre talent. » « de femme, » répéta Du Châtelier, que la surprise et le désappointement empêchaient de comprendre. « Ou plus justement de jeune fille, un rôle pour Mademoiselle Zite. »« Ma fille, mais j'en ai besoin de ma fille, elle m'est indispensable. » »« On n'est pas auteur dramatique sans connaître le cœur humain, comme on n'est pas homme de théâtre sans savoir combien est sensible et facile à exciter la vanité d'un comédien. » Bien qu'il n'eût échangé que quelques mots avec Du Châtelier, Faré avait deviné à qui il avait affaire. « Indispensable, » dit-il avec un sourire, « il me semble que le personnage indispensable dans votre troupe, celui autour de qui tout pivote, qui inspire tout, qui mène tout, c'est celui qui vient de jouer Gloucester d'une façon si remarquable, pour ne pas employer un autre mot. » « Évidemment !» s'écria Du Châtelier dans un élan de satisfaction orgueilleuse. Dès lors, continua Faré, ce n'est pas parce que vous consentiriez à vous séparer de votre charmante fille que votre troupe serait désorganisée. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a le plus souvent dans un théâtre qu'un premier sujet qui tire tout à lui par le prestige qu'il exerce. Qui est ce premier sujet? Est-ce vous? Est-ce votre fille? Du Châtelier se drapa dans son carrick. « La proposition que vous voulez bien m'adresser, dit-il, est trop honorable pour que je ne vous en remercie pas, cordialement, en mon nom et au nom de ma fille. Mais vous comprenez que je demande à réfléchir avant de répondre. D'un côté, je vois tous les avantages qu'il y a pour ma fille à débuter sur une scène comme celle de l'Odéon dans un grand rôle. Mais de l'autre, je ne peux pas ne pas être sensible à une séparation qui ne serait pas moins douloureuse pour nos sentiments que désastreuse pour mes intérêts. Supposons que Zite, au lieu d'être ma fille, soit un sujet de ma troupe, vous ne me la prendriez point, n'est-ce pas, sans m'offrir une compensation, sans me payer un dédit. De mon côté, interrompit Faré, je vous demande aussi à ne pas répondre sur ce point. Je ne suis pas le directeur de l'Odéon. J'ai vu Mademoiselle Zite, j'ai trouvé qu'elle avait les qualités qui convenaient à un rôle que j'ai écrit, et j'ai pensé à lui confier le rôle. Je vous ai fait part de mon désir. Maintenant, avant d'aller plus loin, je dois en faire part à celui qui paie. Je suis l'auteur, il est le directeur. Il vous écrira. Quand vous voudrez, rien ne presse, ma fille n'a que 18 ans. » Il se leva sur ce mot, qui n'était pas maladroit, car si rien ne pressait pour Zite, il n'en était pas de même pour Faré, puisque celui-ci avait eu l'imprudence de dire qu'on répétait sa pièce en ce moment. On se sépara, et Du Châtelier réitéra ses remerciements à Faré, qui, de son côté, le chargea de transmettre ses compliments à Zite. Gaston avait suivi cette négociation avec surprise d'abord, en voyant du Châtelier ne pas accueillir d'enthousiasme les propositions de Faré, et ensuite avec inquiétude en écoutant ses exigences. Aussitôt qu'ils furent montés en voiture pour revenir au château, il interrogea Faré. « Est-il possible qu'il refuse ? » demanda-t-il. « Je ne crois pas, seulement il défend ses intérêts et il ne faut pas trop lui en vouloir. » « Ce dont je lui en veux, dit Bachelet, c'est d'être jaloux de sa fille. Il n'est pas loin de croire qu'elle balance son succès. C'est comédien !»« Ne vous figurez pas que ce sentiment est spécial aux gens de théâtre. Vous trouverez dans l'histoire plus d'un roi qui a été jaloux du dauphin. »